Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression afin de vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle contraception. Chaque femme ou presque a affronté durant sa vie les effets secondaires d'une pilule, d'un stérilet, d'un patch ou encore d'un anneau contraceptif. Pourtant, le phénomène reste encore largement invisibilisé, voire banalisé quand il n'est pas nié. Lasse d'endurer ces effets indésirables, de plus en plus de femmes se retrouvent sans contraception, faute d'en trouver une qui leur convienne. Elles affrontent ces situations souvent seules et dans le plus grand désarroi. Dans son dernier livre, « Marre de souffrir pour ma contraception » aux éditions « Les liens qui libèrent », la journaliste Sabrina Debusca et autrice de l'enquête « J'arrête la pilule » met en lumière cette parole féminine et nous enjoint à bâtir dès maintenant les fondations d'un monde où plus personne n'aura à souffrir pour sa contraception. Bonjour Sabrina Debusca.
Et bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des sujets de santé et autrice de l'enquête « J'arrête la pilule ». Vous aviez frappé un grand coup avec votre livre « J'arrête la pilule », disponible en poche aujourd'hui aux éditions J'ai lu. Et vous récidivez avec « Marre de souffrir pour ma contraception », publié au Lien qui libère, avec des illustrations de Joy, sous-titré « Manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante ».
C'est ça.
Alors, Sabrina, moi je suis contente de vous avoir en face de moi aujourd'hui. J'ai lu votre livre, et d'ailleurs il y a 3 articles qui sont parus en 2017 sur « J'arrête la pilule » et les raisons pour lesquelles effectivement vous faites la promotion d'une prise de pilule, on va dire, en conscience. Moi j'aimerais que vous expliquiez à ceux qui nous écoutent ce que vous reprochez exactement aux moyens de contraception hormonale, donc comme la pilule.
Finalement, voilà, l'idée que je développais uniquement sur le produit pilule dans J'arrête la pilule, là je le développe de manière beaucoup plus large sur l'ensemble des contraceptions, où en fait je dis que, sans jugement aucun, mais uniquement en regardant les faits, dans les années 60, on a fait ce choix de, pour avoir des contraceptions ultra efficaces, médicaliser la contraception. Et donc on a franchi en fait un pas, on n'a peut-être pas pris la mesure à l'époque, mais on a proposé à des personnes qui ne sont pas malades de prendre des médicaments ou des dispositifs médicaux pour éviter les grossesses non désirées. Or aujourd'hui, donc à l'époque dans l'urgence, nos grand-mères, bon bah elles c'était soit ça, soit l'avortement au cintre. Donc forcément, elles étaient prêtes à affronter des effets secondaires que 2-3 générations plus tard, on n'a plus du tout la même tolérance aux effets secondaires. En plus aujourd'hui, on connaît les méfaits de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc les hormones de synthèse, aujourd'hui, un fait est indéniable, et c'est le suivant, c'est que quand on a un organisme sain, un être humain, un animal, plus on peut éviter de l'exposer à des hormones synthétiques, que ce soit des pesticides ou des contraceptions hormonales ou du plastique, mieux c'est. Donc aujourd'hui, forcément, se pose la question de la pérennité de ce choix qu'on a fait dans les années 60 de donner comme ça des hormones à des femmes pendant 10, 20, 30 ans, alors qu'aujourd'hui, on sait que si on peut trouver mieux, c'est mieux. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes, elles ont fait ce chemin-là, mais elles ont très peu d'outils à disposition pour remplacer cette habitude qu'on a avec la pilule et avec les hormones. Et donc voilà, moi j'ai pris ma casquette plus de féministe pour faire ce manifeste, pour enjoindre vraiment la société française et les pouvoirs publics à entendre déjà le fait que les femmes, c'est un progrès pour elles de ne plus avoir à prendre un médicament pour avoir une sexualité libre, parce qu'il faut quand même comprendre que à la base, on veut juste faire l'amour, enfin, c'est du plaisir, et on se retrouve avec des cortèges pour beaucoup d'effets secondaires qui gâchent le quotidien, voire qui en tuent quand même certaines chaque année, c'est ce que je rappelle. Donc moi, j'aimerais simplement que notre société essaye de commencer à réfléchir, à préparer un monde où pour avoir une sexualité libre et sans stress, on n'est pas à prendre un médicament qui a des effets secondaires. Ça me paraît une idée absolument simple et progressiste.
Alors, je sais qu'il y a des médecins, des gynécologues qui revendiquent que la pilule peut être aussi très bénéfique pour certaines femmes, notamment au niveau des douleurs de règles, l'acné, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que vous leur dites
Ben, en fait, cette logique, je la comprends tout à fait, parce que par exemple, dans le cas de l'endométriose, on sait aujourd'hui que c'est malheureusement la seule solution, c'est pas un traitement, mais c'est la seule solution qu'on peut proposer aux femmes qui souffrent d'endométriose. Pourquoi? Parce que ça leur évite d'avoir leurs règles et que du coup, eh ben, elles évitent de souffrir. Mais le problème, c'est que la pilule, à chaque fois qu'elle est proposée, que ce soit pour l'acné, pour l'endométriose, etc., elle ne fait que masquer les symptômes et elle laisse les maladies évoluer silencieusement, et les femmes se retrouvent, ça on a des études qui le montrent, après avoir pris la pilule pour plus avoir leur douleur d'endométriose, on se retrouve avec des endométrioses qui ont évolué silencieusement, qui sont beaucoup plus difficiles à traiter, qui atteignent la fertilité, etc. Donc en gros, c'est pas une solution, c'est un pis-aller. Et en fait, du coup, ça masque à chaque fois la maladie, ça stoppe la douleur dans l'immédiat, ce qui est une super chose, ou l'acné, mais ça, du coup, ça ne règle pas le problème. Et du coup, ça fait qu'on va pas chercher la cause réelle de qu'est-ce qui fait que cette personne-là a eu ce problème-là. Donc non, c'est pas, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, ça c'est, on fait comme on peut. Mais il faut pas que ça nous empêche de chercher ces femmes-là, à les aider avec des vraies solutions pour traiter le problème de base.
Ok. Vous pouvez nous rappeler les effets secondaires de la contraception hormonale ?
Alors, les contraceptions hormonales, donc on va avoir deux types d'effets. Les effets secondaires graves, donc par exemple les accidents thromboemboliques, c'est ce qu'a eu Marion Lara, les embolies pulmonaires, les phlébites, donc ça on a, moi j'ai fait le calcul, on a ça, et on a également les surrisques de cancer. Donc pour les surrisques de cancer, des légers surrisques de cancer, cancer du sein, de l'ovaire, du col de l'utérus et du foie et des voies biliaires, pardon, pas ovaire. Donc ça a été attesté par le Centre international de recherche sur le cancer dès 2005.
Après combien d'années de prise de pilule ?
Alors ça s'aggrave, plus on la prend jeune et plus on la prend au-delà de 10 ans, plus les risques sont élevés. D'accord. Ce qui est malheureusement la norme aujourd'hui, puisqu'on donne les pilules très jeunes et souvent la femme va la garder de ses, on va dire 16-17 ans où elle débute sa vie sexuelle jusqu'à à peu près la trentaine où elle va avoir un désir d'enfant. Donc aujourd'hui ça concerne beaucoup de femmes. Et donc nous on a fait le calcul, c'est quand même effarant que je sois la seule personne sur la planète à avoir eu l'idée de faire ce calcul en 60 ans de pilule, je me suis dit, bah tiens, on a ces effets graves, combien de femmes, par exemple, ça touche en France ? Donc en France, aujourd'hui, on est à 5 millions de femmes qui ont des contraceptifs hormonaux, 4,5 pour la pilule. Et donc, on a pris uniquement deux effets secondaires graves qu'on peut chiffrer grâce aux études. Les autres, on n'a pas vraiment assez de chiffres pour pouvoir évaluer ça. Donc, j'ai pris le surrisque de cancer du sein et les fameux accidents thromboemboliques, donc deux des principaux risques. Et on a fait le calcul, à minima, on a 3000 femmes, plus de 3000 femmes chaque année en France qui finiraient donc à l'hôpital, qui ont un problème de santé grave à cause de leur contraception hormonale, dont 83 qui décéderaient. Et ça, c'est extrêmement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'on a uniquement 1 à 5% des effets secondaires graves des médicaments qui sont remontés à ce qu'on appelle la pharmacovigilance, donc à la NSM, et c'est-à-dire les médecins qui disent, voilà, cette femme-là, elle a eu une embolie à cause de sa contraception, etc. 1 à 5%, ça veut dire que combien, l'estimation qu'on fait aujourd'hui, quelle est la réalité de ce qui se cache derrière ça ? Donc c'est énorme, quoi. Moi, je rappelle juste que pour info, ce qu'on a appelé le scandale de la vache folle, c'est 200 décès sur 20 années, on a appelé ça un scandale. La pilule, moi je fais le calcul, et que l'État s'en saisisse et qu'il refasse un calcul plus complet, parce que le calcul il n'est pas parfait, et on fait avec ce qu'on a, que l'État refasse le calcul, mais moi je suis persuadée que concernant les contraceptions hormonales, on est à minima à aux alentours d'une centaine de femmes qui décèdent chaque année. En France, il y a 105 millions de femmes qui prennent des contraceptions hormonales dans le monde. Donc ça veut dire combien de décès depuis 60 ans chaque année, dont personne ne parle et dont tout le monde se fiche, et dont les médecins, que je peux avoir par ailleurs en face sur des plateaux télé ou autres, viennent ramener à des cas rares ou à des cas... un peu c'est comme si, mais on ne peut pas faire autrement, c'est un peu le prix de la liberté. Alors moi j'essaie juste de dire, excusez-moi, est-ce qu'on peut rêver à un monde où les femmes n'aient pas... ou un monde où pour que les femmes aient des contraceptions efficaces, il n'y en ait pas je ne sais combien qui restent sur le carreau chaque année. Ces femmes-là quand même, elles ne sont pas malades. Et moi aussi, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens suite à J'arrête la pilule, de faire beaucoup de conférences, de colloques. Tous ces gynécos qui nous disent que c'est des cas rares, que en gros, c'est comme ça, que c'est pas autrement, ou que c'est pas grave, qu'il faut faire avec. excusez-moi, mais qu'est-ce que vous allez dire à, par exemple, cette mère qui est venue me voir à la fin d'une conférence, qui a 55 ans, qui me dit, ben, vous savez, moi, j'ai emmené ma fille voir son gynéco, elle était toute contente, elle avait son premier petit copain, et donc on lui a prescrit sa première pilule. Et ben, 3 mois après, elle était décédée, donc d'une embolie pulmonaire. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là en leur disant que ben oh bah ben oui ben c'est comme ça, il en faudra toujours, on peut pas faire autrement. Ah bah ben oui, un médicament ça expose à des effets secondaires. Ouais, enfin combien de femmes on leur a dit ça quand on leur prescrit la pilule? Moi on me l'a pas dit. Toutes les femmes de mon entourage, elles sont pas du tout non plus conscientes qu'il y a ces risques-là. OK, il y a des prédispositions génétiques ou tout ce que vous voulez, mais il y a quand même une bonne proportion de ces femmes-là qui n'avaient aucune prédisposition, qui ne fumaient pas, enfin qui faisaient tout bien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas juste se poser 2 minutes, mettre nos divisions de côté, on n'est pas obligé de tous penser pareil, mais juste en se disant que notre société n'accepte plus que des femmes en parfaite santé meurent chaque année à cause d'un médicament pour avoir une vie sexuelle. Voilà, moi c'est quelque chose en tant que femme qui me révolte, et comme j'ai la chance d'être plongée là-dedans et de vraiment avoir tout lu, tout vu, ben oui, moi je peux pas ne pas réagir face à ça et me dire, ah ben oui, bon ben c'est pas grave, hein, y en a certaines qui vont mourir chaque année, bon que voulez-vous, c'est quand même un immense progrès, non? Oui, ça a été un très bon progrès, oui, ça a permis à des femmes comme moi, par exemple, d'être dans le monde du travail sans risquer de grossesse, de pouvoir écrire mes livres, etc. Très bien. Maintenant, ok, la pilule ça a été génial, on va plus loin. Même efficacité, mais sans les effets secondaires, quoi, c'est tout.
Alors, justement, Sabrina, dans votre livre « Marre de souffrir pour ma contraception », vous faites 6 propositions pour une contraception plus sereine et épanouissante. Quelles sont-elles ?
Alors, donc les propositions, pour moi, la première, c'est « Libérons notre parole de femme » là-dessus. Parce que ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, avec la science, tant qu'une chose n'est pas prouvée, tant qu'un effet secondaire n'est pas validé par les études qui sont, je le rappelle, majoritairement faites par l'industrie pharmaceutique, donc il n'a pas d'intérêt à faire d'études sur les effets secondaires de ces contraceptions, ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire que depuis 60 ans, on se retrouve face au phénomène suivant, on a donc des millions de femmes qui prennent des contraceptions hormonales, qui sont hyper contentes de l'efficacité, mais quand elles vont chez leur médecin, elles leur disent « bah tiens, c'est bizarre, depuis que j'ai la pilule, morne pleine, j'ai plus du tout de désir pour mon partenaire, etc. etc. » Et que tout ça, c'est nié au nom du fait que la pilule est un progrès et qu'on serait presque des ingrates si on critique ça. Donc moi j'invite chaque femme à se dire voilà, qu'est-ce que je suis prête à endosser sur mon bien-être, sur ma santé pour 5 à 10 rapports sexuels par mois, puisque c'est la moyenne pour les Français. Est-ce que j'ai envie d'avoir des migraines tout au long du mois? Est-ce qu'il y en a pour qui ça se passe très bien? Tant mieux. Même si, je le rappelle, les hormones contraceptives font des mutations de l'ADN, donc même si des fois on n'a pas d'effet secondaire, ça ne veut pas dire que le produit n'a pas un effet sur notre corps. Ça, c'est autre chose. Mais les baisses de libido, les études nous montrent, c'est quand même 20 à 40% des femmes qui souffrent de baisses de libido sous pilule. Donc pourquoi les femmes rapportent ces effets depuis 60 ans et pourquoi personne ne les écoute? Donc première chose, libérons notre parole. Parlons entre nous, parlons entre femmes, échangeons pour se rendre compte que nous ne sommes pas seules à souffrir de notre contraception et peut-être pour commencer à ouvrir les yeux et à bouger. Donc voilà, d'où du coup le lancement en parallèle au livre du hashtag paye ta contraception pour inviter les femmes, comme pour le hashtag MeToo, à libérer une parole qui est difficile à libérer parce que la pilule a été un réel progrès et qu'on passe pour une ingrate, une chochotte, tout ce que vous voulez, dès qu'on se met à juste dire « bah ouais, mais moi j'ai des effets, je trouve pas ça top, est-ce qu'on peut pas faire mieux ?» etc. Si les gens ne comprennent pas à quel point les femmes souffrent de leur contraception, ont des effets, ça ne bougera pas. Donc le premier truc, c'est ça. Deuxième chose, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, chiffrer sérieusement les effets secondaires. Donc voilà, que l'État lance une étude, que l'État fasse le calcul que moi je me suis amusée à faire pour qu'on se dise, voilà, les politiques de santé publique, elles ne se basent que sur des chiffres pour allouer des budgets. Donc si on veut allouer des budgets pour se dire, bah oui, on veut des contraceptions sans effet secondaire, non médicales, il va falloir qu'il y ait des chercheurs qui les cherchent, ces contraceptions, ou qui améliorent celles qui existent. Donc, des budgets. Ensuite, ça va passer aussi par démisogyniser la gynécologie, c'est-à-dire donc que les gynécos écoutent mieux leurs patientes, ne soient pas dans un paternalisme ou dans une idéologie vis-à-vis de la pilule qui fait que du coup on étouffe la parole des femmes quand elles essayent de dire bah, timidement « Ouais, votre truc c'est bien, voilà, j'ai pris des stériles et cuivres, j'ai des douleurs pas possibles, j'ai pris la pilule, ça me va pas. » Enfin voilà, les femmes sont sans arrêt en train de switcher, en tout cas souvent, d'une contraception à l'autre. Donc voilà, il faut que les médecins les écoutent. Il faut aussi que nos médecins y soient formés de manière indépendante. Je rappelle quand même que selon des études très intéressantes du Formindep, qui agit pour une médecine indépendante. Nos médecins et notamment nos gynécos sont formés à 98% par l'industrie pharmaceutique. Donc comment voulez-vous qu'un médecin qui lui-même est informé par l'industrie informe correctement ses patientes derrière? Voilà, la plupart des gynécos, s'ils font pas l'effort de s'abonner à des revues médicales indépendantes, ils vont aller s'informer chaque année dans des congrès de gynécologie sponsorisés par Bayer et par Pfizer, qui vont bien sûr faire les louanges de leur dernière pilule. Enfin, ça fonctionne comme ça. Donc ça, à nouveau, ce sera des choix de budget. Si on veut que les femmes elles soient bien informées, qu'il y ait moins d'effets secondaires, qu'on développe des meilleures contraceptions, ça va passer par des budgets, par chiffres, etc. Donc il y a plein de choses comme ça, plein d'axes qu'on peut améliorer. Ça va passer aussi par tout ce qui est attaque au droit à l'IVG. Actuellement, on a des centres d'IVG, je crois qu'il y en a 130 qui ont fermé l'an dernier, hein, en même temps que les maternités. Or, comme les contraceptions ne sont pas efficaces à 100%, le droit à l'IVG, ça va avec le droit à la contraception. Puisqu'on a une contraception, trois quarts des femmes qui ont des IVG avaient une contraception, donc elles ne l'ont pas fait exprès, elles ne voulaient pas tomber enceinte. Et malheureusement, elle doit faire une IVG. Or, aujourd'hui, on a des femmes qui se retrouvent avec des difficultés sur les délais d'IVG parce qu'elles doivent faire je ne sais combien de kilomètres ou parce que des médecins, par idéologie, font pression ou leur refusent cette IVG. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes. Moi, j'en avance 6. Après, à l'État de se saisir du sujet, de faire une concertation nationale sur le sujet et de mettre tout le monde autour de la table, les femmes, les hommes, les chercheurs, les médecins qui prescrivent et de dire voilà. Le truc, il est là. On a 20% de femmes qui consomment. Enfin, on a une diminution de la consommation de pilules de 20% entre 2000 et 2016. Donc, grosso modo, il y a de plus en plus de femmes qui arrêtent la pilule ou les hormones. Qu'est-ce qu'on leur propose et comment on les accompagne dans ce chemin-là pour pas qu'elles se retrouvent toutes seules avec le préservatif et du coup monsieur qui fait pression parce que ça lui plaît pas. Donc, du coup, on fait le retrait, on fait des trucs pas efficaces. Ou avec des femmes qui sont tellement mal à l'aise chez leur gynéco qu'elles préfèrent se débrouiller seules dans leur coin avec des applications mobiles ou des trucs pas du tout efficaces. Enfin voilà, moi je dis juste attention. Enfin les femmes, elles sont en souffrance, elles sont en besoin. Et c'est comme si tout le monde s'en fichait, quoi. Enfin on va sur la lune, on fait des trucs extraordinaires et puis on n'est même pas fichu de développer des contraceptions que les femmes n'aient pas à payer dans leur corps, quoi.
Alors Sabrina, quelles sont les alternatives à la contraception aujourd'hui hormonale? Est-ce qu'il en existe est-ce qu'on doit faire participer les hommes? Parce que vous parlez effectivement de la contraception masculine dans votre livre. Qu'en est-il de tout ça?
Donc oui, la contraception masculine, ça serait un pan de la recherche qui a totalement été délaissé depuis les années 60 parce qu'on a voulu, les féministes des années 60 voulaient développer des contraceptions aux mains des femmes parce que les rapports hommes-femmes n'étaient pas les mêmes à l'époque et qu'il y avait des maris qui étaient carrément contre la contraception pour leurs femmes. Donc du coup, les femmes voulaient, par exemple, la pilule, c'était très pratique parce qu'elles pouvaient même le prendre en cachette de leur mari. Bon, aujourd'hui, heureusement, on n'est plus dans les mêmes rapports hommes-femmes et il y a des hommes ou des couples, en tout cas, qui voudraient pouvoir partager tout ça. Donc on va peut-être bientôt avoir la pilule masculine, ce qui permettrait de dire par exemple, bah écoute chérie, moi je la prends 5 ans, toi tu la prends 5 ans. Donc ça serait un outil qui permettrait une égalité de fait. Maintenant, moi j'invite juste tout le monde à se dire, est-ce qu'on peut pas déjà maintenant se projeter dans une contraception sans souffrance pour tout le monde, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc ça serait bien qu'on l'ait cette pilule masculine, mais je dis attention, enfin c'est pour à nouveau se retrouver avec des effets secondaires chez les hommes. C'est pas non plus une révolution, quoi. C'est juste un petit progrès. Donc, ce qui existe aujourd'hui pour ceux qui voudraient une contraception efficace sans effet secondaire, moi j'en ai chiffré 6 dans le livre, mais qui sont vraiment pas satisfaisantes pour tout le monde. Donc, on a le préservatif masculin, le fameux. On a le diaphragme, qui est assez méconnu, mais qui revient en vogue, et par contre qui a une efficacité un petit peu moins élevée que d'autres contraceptions. Donc, c'est une espèce de coupelle en silicone toute souple qu'on met avec un spermicide, qu'on insère dans le vagin avant le rapport, qui recouvre le col de l'utérus et qui empêche du coup les spermatozoïdes d'aller là où il faudrait pas qu'ils aillent. Et donc ça c'est intéressant par contre chez les très jeunes femmes par exemple, bon, si elles sont pas à l'aise avec leur corps, enfin il y a plein de choses qui font que c'est peut-être pas hyper adapté pour une très jeune femme. Et c'est moins efficace, donc si la femme veut pas absolument pas tomber enceinte, qu'elle fait ses études et qu'elle pourrait pas faire une IVG, ça va pas lui convenir. Donc on a également des choses très intéressantes, une chose que moi je pratique qui est la symptothermie, donc une méthode de connaissance du cycle féminin qui permet du coup, plutôt que d'avoir le préservatif 30 jours par mois, de définir une fenêtre de fertilité. Donc on a le corps qui envoie des signaux très clairs, la glaire cervicale, la température et la position du col de l'utérus qui permettent au bout de 6 mois d'apprentissage, d'être très précise sur le fait de savoir que l'ovulation est en train d'arriver ou qu'elle est passée, et donc de se protéger à ce moment-là avec un préservatif, un diaphragme ou l'abstinence, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a ça, mais ça pareil, ça ne correspond pas à toutes les femmes. Il y a peut-être des femmes qui, je sais pas, sont en test de l'air, sont en horaire décalé, ça peut être compliqué à mettre en place, donc c'est pas idéal. Il nous reste, il y a aussi l'allaitement. Il faut savoir que quand on allaite son enfant de manière très régulière et continue, on a une efficacité contraceptive de 98%. Donc pour celles qui allaitent en continu, si vous le faites vraiment sérieusement, sachez que voilà, ça peut aussi le faire. Et après, il y a le fameux, par exemple, slip chauffant là, chez les hommes. Donc c'est une espèce de slip kangourou. Il y a un trou dans lequel l'homme met sa verge, ça lui remonte les testicules. Du coup, ça augmente la température des testicules. Et au bout de 3 mois, il produit quasiment plus de spermatozoïdes, donc il porte ça 15 heures par jour tout le temps, et ça lui permet d'avoir un contraceptif sans effet secondaire, qui n'est pas hormonal, etc. Donc voilà, on n'a pas grand chose franchement. Aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des femmes, c'est pas pour rien si, quand elles veulent plus d'hormones, elles se reportent sur le stérilet cuivre, parce que c'est hors contraception hormonale le seul truc hyper efficace qui n'est pas prise de tête, parce qu'on le pose et c'est fini. Malheureusement, il y a plein de femmes, dont j'ai fait partie, qui ne le supportent pas. Donc on retombe voilà, sur le préservatif, etc. Et là, on se rend compte que bah, ce n'est pas toujours satisfaisant, qu'il y a des situations dans lesquelles, du coup, ça fait prendre des risques aux femmes. Donc moi, je dis juste, voilà, est-ce qu'on ne peut pas débloquer des budgets pour chercher et améliorer tous ces contraceptifs qui existent déjà, et puis peut-être, pourquoi pas, en développer des tout nouveaux. Parce que notre fameuse pilule qu'on adore aujourd'hui, remettez-vous dans les années 1920. Margaret Sanger, grâce à qui on a la pilule, dans les années 1920, elle avait déjà eu cette idée, parce que c'était le début des hormones synthétiques. Vous croyez qu'à ce moment-là, vous auriez pris quelqu'un dans la rue en lui disant « Hey, dans 40 ans, on aura un petit cachet, écoute, tu le prends et t'as plus peur d'être enceinte à la fin de chaque mois. » Je pense que tout le monde vous aurait dit « Oui, oui, bien sûr, oui. » Eh bien, il faut se replacer aujourd'hui dans la même posture et se dire qu'il faut rêver ambitieux. Il faut pas se résigner au fait que ben non, c'est comme ça, il y a des effets secondaires, on peut pas faire autrement. Non, toute idée qui est née, il y a un moment quelqu'un qui l'a portée. Donc moi aujourd'hui, je veux porter cette idée que même si on est dans une période économiquement ou sur le féminisme de recul, je suis jeune et moi j'ai pas envie de me résigner. Moi je veux croire que peut-être d'ici la fin de ma vie, les femmes auront à disposition dans le monde entier des contraceptions efficaces et sans effets secondaires. Moi je veux y croire.
Sabrina, une dernière question, plus perso. Je voulais savoir pourquoi avoir fait le choix de la pilule dans vos sujets, dans votre sujet de cheval de bataille. Pourquoi avoir fait le choix de la pilule?
La parole des femmes, bêtement. Moi, j'ai un site internet, voilà, sasaurait.fr, c'est plus sur le ton du blog, où je parle de santé. Et j'avais, en 2014, donc moi-même, arrêté ma pilule, et j'avais expliqué que c'était un des gestes qui avait eu le plus d'impact sur ma santé. Parce que à ce moment-là, je m'étais rendu compte que plein de petits problèmes de santé bénins, mais que j'avais chroniques depuis plusieurs années, se sont arrêtés totalement dès que j'ai arrêté ma pilule. Et je les avais pas du tout reliés à ma pilule, je l'ai prise 10 ans, et ces effets chroniques sont arrivés au bout de 5 ans. Et notamment, la fameuse baisse de libido, qui est quand même assez dramatique pour beaucoup de femmes, parce que faut comprendre que si c'est classé comme effet bénin, la baisse de libido sous pilule, ça peut briser des couples en fait. Moi je crois les femmes quand même disent qu'elles ont des baisses de libido sous pilule. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu et que moi-même je me suis posé des questions sur le désir que je portais à mon compagnon, ce qui est quand même grave, c'est l'homme de ma vie quoi. J'ai cru un moment, enfin je ne comprenais pas, il y avait une déconnexion entre mon corps et mon esprit, je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de lui dans mon esprit mais que mon corps suivait pas, sécheresse vaginale, j'avais pas l'impulsion, même au niveau voilà, du clitoris. Et quand j'ai fait mon enquête sur la pilule et que j'ai réalisé que c'était prouvé scientifiquement ces effets-là, et je me suis dit, bon, moi j'ai fait un article dessus en 2014, et là, j'ai ouvert, je pense, une boîte de Pandore, plus de 500 témoignages, plein de femmes qui me disent « Ah mais oui, mais j'ai vécu exactement la même chose », et là je me suis dit « Mais là il y a un truc à creuser quoi ». Enfin, en tant que journaliste, moi j'étais par exemple la première femme à avoir parlé des violences gynécologiques en 2014, justement la même année, et on n'appelait même pas ça violence gynécologique, à l'époque on n'en parlait pas. Et tout le monde m'avait dit « Oui, de quoi tu parles, ça concerne 10 nanas par an à tout casser », j'ai dit « Non, écoute, c'est mon instinct journalistique, me laisse penser que c'est un truc beaucoup plus répandu qu'on croit ». Et l'histoire m'a donné raison. Et sur la pilule, j'ai eu ce même truc-là. C'est pour ça que je lâche pas. Parce que j'ai tellement de femmes qui me disent que c'est vrai, que oui, elles ont vécu ça, que je me dis, voilà, là, il y a un truc à faire et c'est trop important parce que les femmes, ça leur bouffe leur vie, quoi. Ça leur bouffe leur quotidien. Et au nom de, voilà, au nom de principes financiers, au nom d'une idéologie où, voilà, on met la pilule, voilà, c'est notre porte-étendard et on ne veut pas avoir les effets secondaires. Non, les femmes, si vous les écoutez, elles parlent depuis toujours des effets secondaires de la pilule, sauf qu'on ne les écoute pas depuis 60 ans. Donc maintenant, il serait temps de les écouter pour avancer, voilà. Donc c'est la parole des femmes vraiment qui à chaque fois moi est à l'initiative de mes enquêtes, toujours.
Eh bien merci Sabrina pour ce partage. Vous avez une idée d'un prochain ouvrage en vue? Vous êtes déjà dessus?
C'est ça,
ouais. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors mon prochain ouvrage, ça sera sur un truc qui me taraude beaucoup. J'ai fait un article dessus sur Chic Magazine que vous pouvez aller lire. C'est sur les femmes et l'effondrement. Donc en ce moment, on parle beaucoup de collapsologie, c'est-à-dire le fait que potentiellement d'ici 2030-2050, nos sociétés modernes, là, telles qu'on les connaît, avec nos états, nos monnaies, nos lois et nos frontières, pourraient totalement s'effondrer à cause d'un krach économique qui entraînerait des guerres ou à cause d'un effondrement écologique, des catastrophes. Et moi, je suis fan de fiction post-apocalyptique, de dystopie, donc les Walking Dead, la Servante Écarlate, toutes ces choses-là. Et à chaque fois que je regarde ces fictions, je frémis en me disant, en tant que femme occidentale un peu privilégiée, ah ouais, mais en fait, bah là, concrètement, donc d'ici 2030-2050, on pourrait vraiment se retrouver dans cette situation où d'un coup, tout s'effondre. Et là, j'ai réfléchi en tant que féministe et je me suis dit, mais attends, les droits des femmes, ils tiennent à quoi? Alors, notre contraception, elle tient à l'industrie pharmaceutique. Donc, s'il y a un effondrement, qu'il n'y a plus de route, plus de pétrole, plus rien, plus de contraception, plus de capote, sans plus rien. Nos droits, la parité, notre place dans les entreprises, en politique, c'est dû à des lois qui obligent à ce qu'on mette des femmes, etc. La violence des hommes, donc les viols, les violences conjugales, etc. Pareil, c'est sanctionné par des lois. Donc, si un jour nos états, nos systèmes économiques, nos routes, tout s'effondre, il se passe quoi en fait pour les femmes? Enfin, on revient à quel stade? Et ça me préoccupe tellement, ça me taraude, que donc là je me lance dans une enquête de 2 ans où je vais aller rencontrer des femmes dans le monde entier, au Salvador, au Rwanda, au Sri Lanka, en ex-Yougoslavie et en France à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour leur demander, elles ont vécu des situations où c'est retour à l'état de nature, comme ça pourrait donc nous arriver. Alors en tant que femme, comment vous avez géré vos menstruations, la contraception, les rapports avec les hommes, la place dans le camp, en politique, ou pour s'imposer, ou alors est-ce que c'est le retour à la popote et au rôle traditionnel? Voilà. Je veux du coup essayer de préparer ce truc-là en me disant, bah, effectivement, si demain tout s'effondre, est-ce qu'on peut réfléchir à un féminisme autonome? Un féminisme qui ne dépend ni des lois, ni des états, ni des hommes. Et ça sera toujours utile, même s'il n'y a pas d'effondrement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on le voit, les états, voilà, dès qu'on a un gros con à la tête d'un état qui, d'un coup, se dit oh, « Tiens, je vais retirer le droit à l'IVG parce que ça lui prend », et ben c'est les femmes qui souffrent. Moi, je veux réfléchir à un féminisme où nos droits ils soient entre nos mains et pas et ne dépendent pas trop de tout ce qu'il y a autour.
Du bon vouloir masculin, par exemple.
Exactement.
D'accord. Ben merci, Sabrina. On va suivre votre actualité de très, très près. En attendant, on peut apprécier votre livre « Marre de souffrir pour ma contraception » publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, avec des illustrations de Joy, sous-titré « Manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante ».
C'est ça. Et témoignez avec le hashtag paye ta contraception de vos galères contraceptives ou de tout ce que vous voulez qui change à ce niveau-là.
Super. Eh bien, voilà, encore une fois, mille merci Sabrina. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.
Bah oui, merci à vous.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je rappelle le titre du dernier livre de Sabrina Debusca, Marre de souffrir pour ma contraception, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview. Je vous dis à tous à très vite pour d'autres découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur.